Genèse 11 à partir du verset 27. On part du père d'Abraham qui s'appelle Terah. Et voilà ce que l'on dit. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Terah au pays de sa naissance à Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent, la femme d'Abraham se nommait Sarai, et la femme de Nahor, Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Yiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Terah fut de 205 ans et Terah mourut à Haran. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme, Sarai, et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Jusqu'ici, notre lecture. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette formulation est familière de ceux qui connaissent tant soit peu la Bible. Mais elle est porteuse d'une originalité radicale. Elle parle d'un Dieu qui ne reste pas à distance des hommes dans son éternité bienheureuse, mais d'un Dieu qui intervient dans leur vie, d'un Dieu qui s'implique dans leur histoire, d'un Dieu qui donne à cette vie, à la vie de ces hommes, de ces femmes, une orientation et poursuit son œuvre de génération en génération. C'est ainsi que Dieu se fait connaître dans la Bible, par ses projets, par son action. Il donne sens à la vie de ceux envers qui il agit. Pour bien des peuples, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, à la manière des cycles de la nature. La révélation du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parle d'une histoire qui avance, d'une histoire où chacun compte personnellement avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait. Le chapitre 12 de la Genèse nous relate l'appel d'Abraham. C'est un moment décisif dans l'histoire de l'humanité, car on voit le Seigneur injecter dans l'histoire des hommes un projet nouveau. Dieu injecte par cet appel un projet nouveau dans l'histoire. L'humanité s'est éloignée de Dieu dans son ensemble, mais Dieu choisit de ne pas la laisser à elle-même. Et c'est dans ce but, avec cette perspective, qu'il choisit un homme pour que cet homme soit, par sa vie, par son obéissance et par la descendance que Dieu lui donnera, une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce projet, nous le savons, il débouchera et trouvera sa force et son accomplissement en Jésus-Christ, qui est la vraie, la pleine prospérité d'Abraham et qui apporte au monde cette bénédiction promise à Abraham. Revenir à l'histoire d'Abraham, le père des croyants, c'est donc revenir aux sources mêmes de notre foi et à cette action d'un Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Quelques mots maintenant sur le contexte pour essayer de situer le personnage. Avec Abraham, nous voilà renvoyés bien loin en arrière. Nous sommes renvoyés il y a plus de 4000 ans. Abraham a probablement vécu entre 2200 et 2000 avant Jésus-Christ. Je rappelle qu'il a vécu 170 ans, il faut du temps donc. Cela peut nous sembler être un autre monde, tellement les choses ont changé depuis. Mais on peut se dire aussi que c'est là que notre histoire a commencé. C'est là vraiment que notre histoire, à nous qui sommes les fils d'Abraham aussi, cette histoire a commencé. C'est là que Dieu a injecté dans l'histoire son projet de salut. C'était donc pas juste une vieille histoire, c'est notre histoire qui commence là. En même temps, 2200 avant Jésus-Christ, or nous n'avons pas tellement d'images de cette période-là, mais il ne faudrait surtout pas se représenter cette période comme étant l'âge de pierre. Abraham vit dans un monde civilisé, un monde très civilisé, et qu'il est depuis longtemps. On a retrouvé au nord de la Syrie, à Ebla, une bibliothèque entière d'écrits qui était sur des tablettes d'argile et qui date de 2300 ans avant Jésus-Christ, donc encore 100 ans avant Abraham. Et ces tablettes sont formidables parce qu'elles attestent qu'il existait tout un commerce, des échanges entre les peuples, entre les gens, des textes diplomatiques. Tout cela était très développé dans le Proche-Orient où se trouve, où vit Abraham. Pour bien nous représenter donc ce monde d'Abraham, il nous faut penser à un monde civilisé, avec des villes, avec des routes, avec des échanges, avec des cultures différentes, des religions différentes également, avec l'écriture, avec des frontières ouvertes. Quelle est donc la situation d'Abraham au moment de l'appel de Dieu? Le récit de la Genèse nous donne deux indications. Le chapitre 11 présente la famille d'Abraham, dans une fresque un petit peu globale. Son père s'appelait Terah, nous l'avons lu, et le texte mentionne trois fils, mais la famille a pu être plus large. Abraham est mentionné en premier, il est probablement l'aîné. Un fils meurt prématurément. Il s'agit du père de Lot. Il meurt, nous dit le texte, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. C'est chapitre 11, verset 18. Et nous avons là une première indication. La ville d'origine d'Abraham et de sa famille est Ur en Chaldée. Où se trouve cette ville? Ur en Chaldée, si on veut la situer dans la géographie d'aujourd'hui, se trouve tout au sud de l'Irak actuel, sur l'Euphrate, l'un des grands fleuves de l'Irak avec le Tigre, à 150 km à peu près de l'embouchure de l'Euphrate dans le golfe Persique. Donc tout au sud de l'Irak, vers le golfe Persique par là-bas. C'était une ville importante. C'était un carrefour commercial, justement grâce au fleuve de l'Euphrate et la proximité du golfe Persique. On y trouvait, par exemple, des produits qui venaient d'Inde, à ce moment-là déjà. Les tisserands, avons-nous découvert, produisaient 12 qualités différentes d'étoffes. Des bijoutiers travaillaient l'argent, l'or, les pierres précieuses. On y travaillait le bois, le cuir, on y construisait des navires. Tout cela, on l'a retrouvé par des fouilles et par ces écrits commerciaux que l'on a déchiffrés et qui datent de la période d'Abraham. Donc une vie vraiment intense. Et au temps d'Abraham, cette ville d'Ur était une ville en plein essor. D'un point de vue religieux, la ville était dominée par un immense temple en forme de tour à trois terrasses, haute comme un immeuble de 20 étages. La dernière terrasse était plantée d'arbres tout autour et abritait le temple de Sin, la déesse de la lune. La religion de la Babylonie ancienne, à Ur en Chaldée, avait de nombreux dieux. Et la famille d'Abraham partageait ses croyances. Et c'est important de le noter. C'est ce que Josué rappelle au peuple d'Israël dans un discours où il demande d'être attaché à Dieu. Il dit, Josué 24, verset 2, « Vos pères, Terah, père d'Abraham et de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils rendaient des cultes à d'autres dieux. » C'est donc de cet arrière-plan que Dieu a appelé Abraham. La vie à Ur était riche, était confortable, les opportunités de s'enrichir étaient nombreuses, la religion était à milieu du culte de l'unique Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Et le récit de Genèse 11 mentionne un premier départ du clan de Théra. Genèse 11, verset 31, nous dit « Théra prit Abraham, son petit-fils, et Lot et sa belle-fille Sarai. Ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. » Si on regarde une carte, je suis désolé de ne pas pouvoir l'afficher, ça veut dire qu'ils ont remonté la vallée de l'Euphrate tout au long, sur 600 kilomètres environ, jusqu'à la frontière actuelle entre le nord de la Syrie et la Turquie. Vous voyez, on part du sud de l'Irak jusqu'au nord de la Syrie. Donc, un très grand voyage. Et on imagine, il est très probable que tout le clan a fait partie de ce voyage, car on retrouve dans la suite de l'histoire un frère d'Abraham qui est installé dans cette ville de Haran. C'est là qu'Abraham ira chercher une femme pour Isaac, son fils. Il y a donc une première étape où on part de Ur en Chaldée pour remonter l'Euphrate jusqu'à Haran. Et Théra est décrit dans le chapitre 11 comme celui qui prend Abraham. Théra prit Abraham avec lui. Il semble que leur projet était ensuite de redescendre depuis le nord de la Syrie jusque vers le pays de Canaan. Mais ils s'arrêtent avant. Cette ville de Haran était un carrefour commercial important. Le mot Haran veut dire d'ailleurs carrefour. On y a retrouvé un temple de la déesse de la lune, Sin, justement cette même déesse qui était adorée à Ur en Chaldée. Même religion donc qu'à Ur, même profil général qu'à Ur, en plus petit certainement. Et cela explique peut-être que l'on se soit arrêté là, à cette première étape. Alors la question qui se pose, c'est à quel moment s'est situé l'appel d'Abraham? Est-ce qu'Abraham a été appelé quand ils étaient à Ur en Chaldée, au tout début, et est-ce que c'est ça qui a motivé l'ensemble de la migration? Ou est-ce qu'il a été appelé à Haran, c'est-à-dire après la première étape de migration qui aurait été à l'initiative de son père? Alors le texte de Genèse 11 et 12 ne précise pas exactement à quel moment se situe cet appel. On passe à autre chose au chapitre 12, après l'histoire de Haran au chapitre 11, c'est l'histoire d'Abraham au chapitre 12, et on met en introduction à l'histoire d'Abraham cet appel de Dieu, mais on ne situe pas exactement où il se trouve, à quel moment il est intervenu. Mais nous avons quelques indices quand même. Un peu plus tard dans le récit, Dieu parle à Abraham et lui rappelle toute l'histoire. Et il lui dit, chapitre 15, verset 7, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. » Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Et dans le livre des Actes, lorsque Étienne rappelle l'histoire du peuple d'Israël, il affirme clairement qu'Abraham avait entendu la voix alors qu'il habitait en Mésopotamie et avant qu'il habite à Haran. C'est acte 7, verset 2. Et cela conduit à penser que c'est Abraham qui est à l'origine du premier départ de Ur en Chaldée. Peut-être a-t-il annoncé son projet et du coup son père a décidé de l'accompagner avec le reste du clan, et comme son père restait le chef du clan, on dit que c'est Théra qui a emmené avec lui Abraham. C'est probablement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce premier départ n'est pas allé jusqu'au bout. Et la parole de Dieu retentit à nouveau pour Abraham en lui demandant de tout laisser, y compris la maison de son père. Et donc on voit probablement un départ de ce type-là en deux étapes. Que veut dire ce départ en deux étapes? Il illustre d'abord, me semble-t-il, le fait qu'Abraham n'était pas un nomade. Abraham n'était pas un nomade comme on le dit souvent. Il était foncièrement un sédentaire. Le clan était bien installé à Ur. Arrivé dans une ville à Haran, il s'installe à nouveau pour y habiter, nous dit le texte. Ça montre vraiment la volonté d'habiter, de s'installer quelque part, d'y avoir ses racines. La vie nomade à laquelle Dieu appellera Abraham n'était pas dans ses gènes. Ce n'était pas son mode de vie. D'ailleurs, on verra un peu plus tard, Lorsque Lot, son neveu, trouvera une ville où habiter, c'est ce qu'il choisira en s'installant à Sodome. C'est plutôt ça le mode de vie d'Abraham et de son clan. Et donc, il faut nous rappeler cela. Dieu appelait Abraham à quelque chose de nouveau par rapport à ce qui était ses habitudes de vie. D'un autre point de vue, tout autre point de vue, ce départ en deux étapes nous montre aussi qu'il nous faut aller jusqu'au bout de l'obéissance. Pour Abraham, la rupture devait aller jusqu'à quitter la maison de son père. Car Dieu voulait, pour le projet qu'il initiait, un nouveau commencement radical. Et ça s'est fait en deux temps. D'abord jusqu'à Haran, et ensuite laisser Haran pour aller dans le pays que Dieu montrerait à Abraham. En deux temps. Il y a des étapes aussi dans notre vie, et il peut même y avoir des étapes dans notre obéissance. Faire un premier pas, suivi d'un suivant. Abraham a fait un premier départ accompagné des siens. Mais le moment venu, il lui a fallu faire le pas décisif de l'obéissance jusqu'au bout et de quitter aussi la maison de son père. Et autant il était certainement légitime de faire la première partie avec les siens jusqu'à Haran, autant il aurait été illégitime devant Dieu de rester à Haran à cause des siens, si vraiment les siens avaient voulu faire de l'opposition. Et il nous faut réfléchir aussi à notre vie, à cette lumière. Y a-t-il un domaine où peut-être nous avons fait un premier bout, un premier chemin d'obéissance, et où nous savons que nous sommes appelés à aller plus loin? Est-ce que peut-être nous avons fait une première étape et nous sommes arrêtés à cette étape, comme Abraham qui s'est arrêté à Haran? Sommes-nous peut-être appelés quelque part dans notre vie à aller plus loin dans quelque chose que Dieu nous demande? Abraham a été béni et rendu en bénédiction lorsqu'il a accepté d'aller jusqu'au bout de l'obéissance, jusqu'au bout de ce que Dieu demandait de lui. Et pour nous aussi, il nous faut aller jusqu'au bout de l'obéissance. Voilà donc pour cette mise en contexte général de l'appel d'Abraham. Il nous faut maintenant considérer en quelques instants l'appel de Dieu, sa portée, sa signification. Je reste juste sur un volet de cet appel. On passe de l'histoire de Terah à celle d'Abraham, du chapitre 11 au chapitre 12, de manière un petit peu abrupte. On dit « l'Éternel dit à Abraham ». Le premier mot est le nom de Dieu, le nom propre de Dieu. L'Éternel, Yahvé, dit à Abraham. Et c'est voulu qu'il y ait ce côté un peu brusque, sans transition. Cela dit, qui a l'initiative? Toute cette histoire, toute notre histoire, doit tout à l'intervention de Dieu. Si quelque chose s'est passé, c'est à cause de cette initiative. Abraham obéira, Abraham persévérera, fera confiance, mais Dieu a fait le premier pas. L'Éternel dit à Abraham. Et ce premier pas va plus loin qu'un appel adressé. Car un mystère demeure quand même. Comment Abraham, qui vivait au milieu d'un peuple d'idoles et de multiples dieux, comment Abraham connaît-il l'Éternel, le seul et unique Dieu? Quand on voit Abraham parler, il a une vision très claire de Dieu. Quand il exprime sa foi, c'est une vision très claire du Dieu unique, du Dieu créateur, du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Abraham connaît aussi ce Seigneur par son nom personnel, le nom Yahvé. C'est ce qu'il exprime dans les récits. Il invoque Dieu avec ce nom personnel. Et c'est ce nom qu'il proclame lorsque l'on lui demande, lorsqu'il parle de sa foi à d'autres. On le voit au chapitre 13, au chapitre 14. Et cette foi au Dieu unique contraste totalement avec les croyances religieuses de son milieu. Comment expliquer une telle rupture? Comment l'expliquer? Le premier mot du récit de Genèse 12 est la seule explication. C'est l'Éternel, le Seigneur lui-même, qui s'est fait connaître à Abraham, de manière assez forte, assez claire, pour que Abraham puisse devenir un adorateur du Dieu unique face aux idoles. Dans le livre des Actes encore, Étienne souligne cette dimension de révélation personnelle et spécifique. Acte 7, verset 2, Étienne dit « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie et lui dit « Sors de son pays ». Avant l'appel, une révélation du Seigneur lui-même. Avant l'appel, une authentification claire du Seigneur qui s'atteste à Abraham. Et cette révélation du Seigneur bouleverse la foi d'Abraham et l'amène en Babylonie déjà à adorer l'Éternel, le seul Dieu et Seigneur. Sans cette révélation, Abraham serait resté dans les conceptions païennes qui étaient les siennes. Et rien ne se serait passé pour nous non plus, les fils d'Abraham. Nous ne serions pas là. C'est assez étrange que les choses se soient passées ainsi. Dieu aurait pu choisir quelqu'un qui était resté plus près de la foi monothéiste pour initier son plan. Mais il a choisi Abraham dans ce milieu polythéiste et il s'est révélé à lui. Et en choisissant Abraham là où il l'a pris, le Seigneur montre que c'est lui et lui seul qui a l'initiative. Mais en même temps, ça veut dire que le Seigneur choisit comme père des croyants quelqu'un qui a dû venir à la foi. Quelqu'un qui a dû venir à la foi et qui est venu de loin. Pas juste quelqu'un qui a hérité la foi de ses pères. Il y a eu pour Abraham lui-même une révélation nécessaire de Dieu. Et c'est ainsi qu'Abraham acquiert une grande universalité. Il représente ceux qui croient, il est le père des croyants par la foi qu'il a mise en œuvre. Mais il représente aussi ceux qui ont dû être amenés à la foi. Parce que ça a été le cas, il a dû être arraché à sa conception polythéiste de Dieu. Abraham, le père des croyants, a dû être arraché à des ténèbres d'ignorance. Et Dieu l'a fait par sa propre initiative. Nous aussi qui croyons après Abraham, nous croyons parce que Dieu s'est fait connaître. S'est fait connaître le premier, s'est fait connaître Abraham dans l'histoire, s'est fait connaître en Jésus-Christ. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. C'est ce qu'Abraham vraiment pouvait dire à ce Dieu qui lui était apparu, qui s'était fait connaître à lui de manière claire, mais dont nous ignorons les modalités. Mais Dieu va plus loin que de se faire connaître à Abraham. Car nous le voyons qui appelle Abraham, il lui adresse un appel. Il a pour Abraham, à qui il se révèle, une parole qui va engager sa vie d'une manière radicalement nouvelle. Et le message très fort qui en résulte est qu'on ne connaît Dieu qu'en s'engageant avec lui dans une démarche d'écoute, dans une démarche de confiance, dans une démarche d'obéissance. C'est ce que nous dit ce texte, où Dieu se fait connaître à Abraham, puis appelle Abraham. Mais en même temps, cela ne va pas à sens unique, car Dieu aussi, à sa manière, va s'engager envers Abraham. Et on a là, en quelques mots, l'essence même de ce que veut dire connaître Dieu et être connu de lui. Un engagement mutuel. Que demande donc le Seigneur à Abraham ? Il invite Abraham à un nouveau départ, à un nouveau mouvement. Abraham avait son lieu, avait ses repères, avait sa manière de vivre. Et Dieu lui dit « Va, va ». C'est en effet cet impératif qui commande tout dans la parole que Dieu adresse à Abraham. « Va ». Or Dieu lui dit « Va hors d'eux ». Nos traductions disent souvent « Quitte ta famille », mais c'est « Va hors d'eux ». Et Dieu lui dit aussi, mais va vers le pays que je te montrerai. Va, c'est donc l'impératif qui est au cœur de cet appel d'Abraham. Et ça nous rappelle que connaître Dieu nous met en marche. Connaître Dieu nous invite au mouvement, nous donne une orientation. C'est ce que nous apprend l'appel d'Abraham. Quand on a la foi, il y a toujours et encore et quelque part un appel à faire un pas de plus, un objectif à atteindre. Il y a encore et toujours dans notre vie un « va » quelque part qui nous est dit, que le Seigneur nous adresse, quelque chose à découvrir, quelque chose à accomplir. C'est pour ça que la Bible parle de marcher avec Dieu, marcher avec Dieu. Connaître Dieu, c'est inviter toujours et encore à aller. Une vie qui est marquée par un va, par plusieurs va de Dieu. Et pour nous aujourd'hui encore, en tant que chrétiens, être chrétien, c'est recevoir dans bien des domaines de notre vie ce mot qui porte vers l'avant, va. Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous précède en Galilée. » Être chrétien, c'est être précédé par ce que Dieu attend de nous, par ce qu'il prépare pour nous, par ce qu'il vise pour nous. Autrement dit, tout ce que nous savons de Dieu, tout ce que nous savons de sa volonté, tout ce que nous découvrons lorsque nous recevons sa parole en lisant la Bible, tout cela est pour nous, doit être pour nous, comme pour Abraham, une invitation au mouvement. Va. La vie avec Dieu est sous le signe de ce petit mot, de cet impératif. Un va. Connaître Dieu est et reste un appel permanent, un appel au progrès, un appel à la responsabilité, à l'égard du prochain peut-être, un appel à une obéissance, un appel à une mission, à quelque chose de précis que Dieu nous demande d'accomplir, un appel à faire un pas de plus dans un domaine où nous sommes déjà engagés, un appel à la confiance, toutes sortes de « va » qui nous sont adressés. Et ce « va » que Dieu adresse à Abraham, le père des croyants, est un mot qui n'a jamais fini de résonner dans notre vie à nous aussi. Si nous connaissons Dieu, et si nous voulons vivre avec lui, il est normal que nous ayons toujours un va quelque part. J'espère que nous sommes les uns les autres toujours dans cette perspective de savoir que Dieu a quelque chose encore pour nous et en recherche de ce que Dieu a pour nous. Donc un appel au mouvement. Mais cet appel pour Abraham est une rupture. Il doit aller et quitter son pays, sa patrie, sa famille, la maison de son père. On dit parfois, partir, c'est mourir un peu. Laisser une part de soi-même, là d'où on s'en va. Pour les anciens, en tout cas, quitter son cadre, quitter sa famille, c'était mourir tout à fait, pas juste un peu, c'était mourir tout à fait. Car la société était vraiment basée sur l'appartenance familiale, sur le respect des coutumes ancestrales. Dans cette société ancienne, l'individu n'existait que dans ce cadre auquel il appartenait, n'existait que dans son appartenance. On ne s'imaginait pas pouvoir être hors du clan. On ne s'imaginait pas pouvoir être hors des traditions familiales, hors des pratiques religieuses des dieux de sa famille. Les choses ont bien changé depuis, mais c'était comme cela autrefois. Dans le monde ancien, c'est ainsi que les choses se vivaient. On n'existait que parce que l'on appartenait au groupe, au clan. Et Dieu demande à Abraham un déracinement complet. Et il demande ce déracinement complet à Abraham parce qu'il veut fonder à partir de lui un nouveau peuple. Il faut partir sur de nouvelles bases. Il faut aussi abandonner une identité religieuse et des pratiques incompatibles avec la foi dans le Dieu unique. Et on verra Abraham découvrir petit à petit, étape après étape, ce que signifie avoir la foi en l'Éternel. Mais la rupture est là, elle est importante et il faut mesurer qu'elle est immense, qu'elle est totale. En même temps, quand on y réfléchit, elle montre quand même la façon dont Dieu valorise l'individu, la personne, par rapport au groupe. Dieu s'adresse à Abraham indépendamment de son clan. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu qui valorise chaque personne et qui invite chacun personnellement. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Dieu nous invite chacun. Il ne veut pas d'une foi qui soit une simple conformité à un groupe. Il veut que la foi nous engage personnellement. Donc ça valorise aussi la personne. Et c'est le sens aussi de la Bible, du Dieu de la Bible, que de valoriser la personne. Mais il nous faut aussi entendre ce message de rupture. Car pour marcher avec Dieu, il faut parfois savoir quitter certains conformismes, savoir quitter les conformismes de ceux qui vivent sans Dieu. Et il nous faut assumer de vivre parfois différemment de ceux qui nous entourent. Il nous faut assumer d'avoir et de tenir certaines valeurs différentes de ceux qui nous entourent parce que nous appartenons à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à se décaler exprès, mais le Dieu qui nous dit « tu », le Dieu qui nous dit « va », nous invite aussi à certaines distances, distances par rapport à ce qui contredit sa volonté dans le monde où nous vivons. Une rupture, donc. L'appel que reçoit Abraham est une invitation à aller, qui le met en mouvement. Il est une rupture nécessaire, mais il est aussi l'invitation à une découverte. Va dans le pays que je te montrerai. Et là aussi, la formule est très belle, elle est très ouverte, mais juste parfaitement exprimée, parfaitement calibrée, car elle permet de faire d'Abraham un modèle pour la vie de chaque croyant. Elle dit d'abord que Dieu a en réserve un lieu pour Abraham. Va dans le pays que je te montrerai. Dieu a en réserve un lieu pour Abraham. Abraham ne doit pas juste quitter. Mais Dieu a aussi quelque chose en réserve pour lui précisément. Il en est de même pour nous. Dieu ne nous appelle pas dans le vide. Il nous prépare ce qu'il a en vue, ce qu'il tient en réserve pour nous. Une première chose que nous dit cet appel qui est une découverte, va dans le pays que je te montrerai. Mais en même temps, ce que Dieu a en réserve pour Abraham, Abraham ne le connaît pas du tout. Il part, mais d'une certaine façon à l'aventure. Il n'a pas d'itinéraire tracé à l'avance, c'est ce que Dieu lui montrera, qui le guidera. Il n'a pas de GPS préprogrammé avec toutes les étapes et tous les croisements. Il doit faire confiance. Confiance que Dieu a quelque chose pour lui, confiance que Dieu trouvera les moyens de le guider dans sa marche, confiance que Dieu ne l'abandonnera pas à lui-même. Et connaître Dieu aujourd'hui, pour nous, répondre à son appel, c'est aussi vivre dans cette même confiance. Nous ne touchons pas du doigt encore tout le salut que Dieu nous a promis. Nous ne savons pas tout ce que Dieu attend de nous, tout ce qu'il tient en réserve pour nous, pour notre vie. Nous ne connaissons pas non plus tout notre avenir. Mais nous marchons avec Dieu, pas à pas. Nous avons confiance qu'il veut être le guide, notre guide, le berger qui conduit son troupeau, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Nous avons confiance aussi en ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous avons confiance qu'il nous accompagne, qu'il nous guide, qu'il ne nous laissera pas tomber. La marche d'Abraham, une marche dans la confiance, ce à quoi nous sommes nous aussi appelés. La marche d'Abraham est une confiance, mais elle est aussi une obéissance. Une obéissance. Va vers le pays que je te montrerai. Mais ça veut dire aussi que ce que Dieu montre, il faudra le suivre. Il faudra l'accomplir. Et j'aimerais vraiment noter combien foi et obéissance sont unis dans ce texte fondamental. Foi et obéissance sont unis dans ce texte. La foi ose, la foi attend, la foi anticipe, mais elle n'est pas autonome. Va dans le pays que je te montrerai. La foi ne fixe pas ses propres objectifs, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fixe le cadre, c'est Dieu qui montre. Et ce que Dieu montre, ce que Dieu dit, il faudra l'accomplir. Et c'est en obéissant que l'on découvrira toutes les ressources du Seigneur. Foi, oui, confiance, oui, et obéissance, obéissance vraiment. Et c'est ce qui permet d'entrer dans le projet de Dieu. Et c'est vrai qu'elles sont belles, grandes, ces ressources de Dieu, les ressources de son engagement. « Je ferai de toi, dit le Seigneur, une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Les je de l'engagement de Dieu accompagnent l'appel que Dieu nous adresse quand il dit « va ». Le je de l'engagement de Dieu porte l'appel qu'il adresse à Abraham. Nous reviendrons sur cette promesse, sur ce qu'elle signifie, mais j'aimerais vraiment nous laisser ce matin cette pensée forte qui ressort de notre texte. Connaître Dieu, c'est recevoir de sa part un appel. C'est recevoir de la part du Dieu unique un « va » qui nous est adressé. Il nous invite d'abord à le connaître lui personnellement, à être réconcilié avec lui. Et le Dieu d'Abraham a tout fait en Jésus pour que cette réconciliation soit possible aujourd'hui. Et le « va » de Dieu est d'abord pour nous un « vient » qu'il nous dit « venez à moi, vous tous qui avez soif, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, revenez à moi même », dit le Seigneur dans l'Écriture, dans la Bible. Oui, c'est une parole pleine de grâce, il y a une invitation magnifique. Le Dieu qui nous dit « va », nous dit d'abord « viens ». Mais cette invitation, une fois que nous connaissons Dieu, va se prolonger dans un appel pour chaque jour à marcher dans ces voies de Dieu, à marcher dans la confiance, dans la dépendance, dans l'obéissance. Recevons donc cet appel. Chérissons-le en notre cœur. Valorisons-le pleinement comme Abraham l'a fait. Et comme le dit l'apôtre Paul, marchons d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Et comme il dit ailleurs, courons vers le but pour remporter le prix de cet appel céleste qui nous est donné de Dieu et qui nous est adressé en Jésus-Christ. Allons donc, répondons jour après jour, dans chaque domaine de notre vie, à ce « va » que le Seigneur lui-même nous adresse dans son amour. Amen.